Sandra Buratti-Hassan, on se trouve dans la Galerie des Beaux-Arts pour une exposition dans le cadre de l'année britannique au Musée des Beaux-Arts.
Exactement, ici c'est le second volet de notre année britannique avec d'un côté au Musée des Beaux-Arts l'exposition British Stories en partenariat avec le Louvre et ici à la galerie c'est une exposition qui est dédiée à un foyer artistique très fécond du début du 19e siècle à Bristol.
C'est quoi l'histoire de l'école de Bristol ?
Alors donc c'est une exposition que nous avons intitulée Absolutely Bizarre. Alors c'est un titre un petit peu intriguant comme ça parce que justement c'est une école complètement méconnue qui a beaucoup de choses à dire et qu'on espère faire découvrir au public. Donc c'est un rassemblement de peintres, d'artistes, d'amateurs aussi d'ailleurs. C'est pas une école en tant que telle définie dans des murs particuliers, mais c'est un rassemblement assez festif d'ailleurs avec des artistes qui s'intéressent au paysage en particulier, aussi à la peinture de genre, à ce qui se passe en fait dans la société de ce début du 19e siècle qui bouge beaucoup hein, en Angleterre en particulier, et puis aussi de la peinture fantastique. Et ça, c'est le côté le plus étonnant, le plus inédit, le plus bizarre aussi peut-être qu'on vous invite à découvrir.
Trois sections et la première consacrée au paysage.
Exactement, trois sections, trois niveaux, une compréhension assez simple de l'exposition. Ici, on s'intéresse davantage au paysage de Bristol, alors le paysage urbain, puisqu'une des spécificités de ces artistes a été d'aller vraiment faire une sorte d'inventaire de tous les monuments les plus importants de Bristol en ce début du 19e siècle, avec des éléments médiévaux très importants, qui parfois avaient tendance à disparaître un peu sous l'industrialisation croissante de la ville. Et donc ici, par exemple, on est devant un tableau de William Muller qui donne un côté un peu idyllique à cette représentation. On se trouve sur les hauteurs de la ville, du côté de Clifton, et on voit le centre-ville avec le pont, le nouveau port qui a été réalisé, et les éléments les plus importants de l'architecture, comme la cathédrale ou l'église Sainte-Marie-Redcliffe sur la droite. Parmi les peintres que nous présentons ici, il y a un intrus qui est Turner. Alors pourquoi est-ce qu'on a présenté Turner ? Bah, figurez-vous que le jeune Turner passe ses premières vacances en dehors de Londres à Bristol et que tout de suite il met à profit tout son talent notamment de peintre d'architecture dans la représentation par exemple de la cathédrale ici ou encore des gorges très spectaculaires qui forment la géographie particulière de la ville.
Également, il y a de magnifiques aquarelles qui sont dans cette section Absolutely Nature.
Oui, il est vrai que l'une des sections dans lesquelles se développent le plus les artistes de l'école de Bristol et d'une des techniques, c'est l'aquarelle. Donc les Anglais, en général, hein, sont très très doués avec l'aquarelle dès le début du 19e siècle, Turner en particulier par exemple. Et parmi les artistes ici qu'on présente, il y a notamment Samuel Jackson qui représente de très très belles variations atmosphériques. Et on a toute une série d'aquarelles très fraîches avec des coloris exceptionnels et en particulier une œuvre de Samuel Jackson qui représente une séance de dessin à Lee Woods, puisque cette petite confrérie d'artistes allait volontiers se promener ensemble pour organiser des séances de dessin en plein air, donc ce qu'on appelait les sketching parties. Et donc on les voit en train de pique-niquer, de jouer de la guitare, de dessiner, et tout cela pour nous donner envie de faire pareil aussi aujourd'hui.
Seconde section sur Absolutely Social Comedy.
Voilà, ici nous nous trouvons au sous-sol de la galerie, dans la seconde section de l'exposition. C'est une section qui est dédiée à la peinture de genre. Parce que ces artistes de Bristol ont été de très très bons peintres de paysages et ont aussi été de très bons peintres de la vie sociale, de la vie qu'ils pouvaient observer autour d'eux, des hommes et des femmes dans la société, soit des couches populaires, soit au contraire des couches les plus aisées de la société. Une artiste qu'il faut mentionner en particulier, par exemple, c'est Rolinda Sharples, qui est une artiste femme, donc il y en avait à l'époque, mais qui réussissent à vraiment vivre de leur peinture, ça c'était beaucoup plus rare, et elle, c'est ce qu'elle a fait. Donc on la voit dans un autoportrait, par exemple, où elle se représente avec sa mère à ses côtés, sa mère qui a agi comme une sorte d'impresario. Et on voit aussi d'autres œuvres, en particulier une scène de bal qui nous plonge dans l'univers de Jane Austen, qui est la célèbre écrivaine qui écrit exactement à la même période, juste à côté, dans la ville de Bath, sur les relations, notamment de mariage, par exemple, qui se nouent au sein de ces épisodes que sont les bals.
On est devant la princesse Caravou.
Alors cette princesse, en fait, elle nous raconte une histoire tout à fait étonnante, un peu anecdotique, mais quand même qui mérite d'être racontée. C'est au début du 19e siècle, on croise sur les rivages près de Bristol une jeune femme habillée dans un beau costume, avec des plumes sur la tête, et on ne comprend pas sa langue. Petit à petit, on arrive quand même à comprendre que c'est une princesse originaire d'une île, sans doute de Java, qui s'est fait capturer par des pirates et qui a réussi à s'enfuir. Et cette personne donc, est recueillie par la bonne société de Bristol. Elle fait des écrits particuliers avec un alphabet très étrange. Et puis bon, petit à petit, on se rend compte quand même de la supercherie, puisque cette princesse Caribou de Javassou n'est autre que Mary Baker, qui est en fait une fille d'un cordonnier du comté d'à côté, qui avait sans doute envie de s'imaginer une vie meilleure et plus intéressante que celle qui lui était destinée. Et donc elle a complètement inventé de toutes pièces cette histoire. Et c'est ce que raconte ici Edward Bird dans ce petit portrait, qui a été gravé et qui a été beaucoup diffusé à l'époque. Et l'histoire de la princesse Caribou a marqué toute l'Angleterre à ce moment-là.
Dernière section avec absolutisme sublime.
Cette dernière section montre comment les peintres de l'école de Bristol se sont illustrés dans le paysage sublime ou le paysage fantastique. Il s'agit en fait de montrer une forme d'horreur délicieuse, de montrer comment le terrible peut aussi être source de beauté. Et donc, il y a de nombreux paysages fantastiques, un peu apocalyptiques, catastrophique. Et en particulier, ici, on a devant les yeux un tableau de Francis Danby qui représente une scène de naufrage après la tempête avec un coucher de soleil rougeoyant qui est extrêmement impressionnant, qui fait d'ailleurs à l'affiche de l'exposition. Un autre tableau de Francis Danby qui fait partie des collections du Musée du Louvre et qui nous a été généreusement prêté par notre partenaire le Musée du Louvre. C'est une représentation d'une scène biblique où on voit le Christ qui marche sur les eaux. C'est une scène nocturne, cette fois qui est beaucoup moins rougeoyante que celle qu'on a vue précédemment, là, le coucher de soleil. Au contraire, c'est une scène plus apaisée avec un très beau nocturne, un très beau clair de lune qui éclaire la scène de reflets argentés sur le côté droit. Et puis au centre, une petite lanterne qui éclaire les visages rougeoyants des différents marins qui sont complètement médusés par le miracle qui est en train d'opérer le Christ devant eux. Il faut mentionner un autre artiste. Donc Francis Danby est très important dans cette école fantastique à Bristol, mais Samuel Coleman l'est aussi. Et lui, c'est une pure découverte. Un artiste très peu connu en France, mais alors vraiment très peu connu en Angleterre également. Et là, nous nous trouvons devant un tableau qui nous a été prêté par la Tate de Londres, qui s'intitule « La destruction du temple ». Et alors, vous avez une profusion d'histoires, de petites anecdotes au sein de ce paysage complètement apocalyptique. On est au centre d'une église gothique qui est complètement en train de s'effondrer. Sur soi-même, on a l'impression qu'il y a aussi un brasier, la croix tombe, il y a une multitude de personnages qui sont à peine dessinés, on croirait presque de la bande dessinée, c'est extrêmement étonnant comme façon de procéder. Et puis tout en haut, par contre, on voit un ciel plus apaisé avec la vraie croix, qui est celle de la vraie religion. Parce que Coleman, en fait, avait des réflexions religieuses très particulières. C'était un protestant, mais qui était anticonformiste, donc qui était contre l'église étatique de l'époque, et qui voulait dénoncer comme ça quelques méfaits de cette église en particulier, donc qui est représentée dans ces paysages à la fois fantastiques mais aussi allégoriques.
Absolument terrible.
On conclut l'exposition avec une petite section qui présente de véritables bijoux qui sont liés aux émeutes de Bristol. Alors en 1831, en octobre plus particulièrement, il y a le peuple de Bristol qui se révolte. C'est lié à une contestation de la réforme du système électoral, puisque le peuple souhaitait qu'il y ait une plus grande possibilité de vote, alors uniquement pour les hommes encore à l'époque, mais néanmoins ça a donné lieu plus tard à un élargissement de ce droit de vote. Et lors de cette nuit d'octobre 1831, de très nombreux sièges officiels de la ville sont incendiés, sont pillés, sont détruits. Donc c'est un incendie extrêmement important qui a beaucoup marqué les esprits. Et il y a des artistes qui se trouvent là, pour documenter, en fait, qui sont fascinés et qui rejoignent peut-être un peu la pensée dont on parlait tout à l'heure du sublime. C'est-à-dire que même dans l'affreux, dans le terrible, on trouve parfois du beau. Et le côté contrasté entre le feu, les rougeoiements, le jaune du feu et le noir, le bleu profond de la nuit, crée quelque chose d'extrêmement spectaculaire. Et on a voulu montrer, en parallèle de ces œuvres, deux magnifiques aquarelles de Turner qui nous ont été prêtées très généreusement par la Tate de Londres et qui représentent elles aussi deux incendies. Un incendie du Parlement britannique de Londres qui a eu lieu 3 ans plus tard, en 1834, et puis l'incendie d'un entrepôt de la Tour de Londres en 1841. Et il n'est pas impossible que quand Turner fait ses représentations, il est eu en tête des gravures liées aux productions des artistes de l'école de Bristol qui avaient représenté ces émeutes en 1831 parce que ça a été si important, si terrible que toute l'Angleterre a eu connaissance de ces faits. Il y a eu de très nombreuses gravures, les journaux en ont parlé, les journaux ont montré de nombreuses reproductions. Donc Turner avait aussi sans doute en tête ces éléments.
Une exposition qui se partage.
Oui, c'est important pour nous. On voulait vraiment créer une expérience particulière, être dans une sorte de bulle un peu retirée de la réalité pour plonger dans ces œuvres et pour aussi continuer à mieux les comprendre en essayant de percevoir soit la technique, en allant dessiner un petit peu. On a mis à disposition du public des modules pour dessiner, pour comprendre comment fonctionne l'aquarelle et puis peut-être donner envie de faire de l'aquarelle plus tard quand on rentre chez soi. Jouer aussi, on a créé un jeu spécialement qui vous met dans la peau d'un artiste de l'époque et puis qui vous met en lien avec la culture anglaise. Donc c'est essayer de se familiariser par tous les moyens possibles, en fait, de façon très large, pour pouvoir entrer davantage dans ce monde, pour continuer à mieux le comprendre. Et puis, un partenariat avec la bibliothèque Mériadec, la bibliothèque municipale, vous permet aussi de vous asseoir et puis de lire au sein de l'exposition des ouvrages qui sont liés, par exemple, les œuvres de Jane Austen, Le cœur et la raison, ou encore les poèmes de William Wordsworth, qui était l'un des amis de cette école de Bristol.
Vous avez mis également des citations.
Oui, ça fait partie justement de cette envie de comprendre qu'on est au cœur de toute une société, toute une époque, avec des peintres, mais aussi avec des écrivains, avec des penseurs, avec des philosophes. Et là, ces citations qui sont tirées d'œuvres de la littérature parfois célèbres, comme celle de Coleridge, La chanson du vieux marin, nous donnent aussi envie de prolonger un petit peu de façon littéraire ce qu'on peut voir de façon picturale sur les tableaux.
Absolutely Bizarre, c'est une exposition dans le cadre de cette saison culturelle.
La saison ressources de Bordeaux et l'exposition va durer un petit peu plus longtemps puisque vous pouvez venir la voir jusqu'au 17 octobre.